Cette grande manifestation de Jakarta révèle une réaction assez épidermique des milieux musulmans intégristes d'Indonésie. C'est véritablement donc une espèce de renouveau assez récurrent, faut bien le dire, des préjugés racistes et anti-religieux, puisqu'on a affaire à quelqu'un, à Hock, donc qui est à la fois chinois, d'origine chinoise plutôt, et chrétien dans ce grand pays musulman qu'est l'Indonésie. Et en fait, ça révèle quand même un conflit entre ceux qui, en Indonésie, donnent la première place à l'islam, à la religion, par rapport à ceux qui sont pratiquement aussi nombreux, qui, bien que musulmans, préfèrent un statut séculier pour la vie publique et préfèrent que l'on respecte la constitution indonésienne qui prévoit qu'on n'a pas le droit de discriminer les gens pour les fonctions publiques sur la base de leur race, de leur religion et de leur statut social.
Que représente ce front des défenseurs de l'islam qui appelle à manifester? Quel est son poids dans la vie politique, entre autres, en Indonésie?
Il y a plusieurs groupes ou associations musulmanes qui appellent à manifester. Il y a donc celui que vous venez de mentionner, le front des défenseurs de l'islam. Il s'agit d'une milice islamique extrêmement militante, intégriste, extrémiste. Ils ne se sont jamais présentés aux élections, mais s'ils devaient être élus, ils ne remporteraient que très très peu de voix. En revanche, ils sont extrêmement agressifs. Ils font des razzias dans les boîtes de nuit. Ils veulent empêcher les gens de boire de l'alcool, etc. Ils sont pour une charia extrême qu'ils voudraient voir appliquée en Indonésie. Et comme ils n'ont aucun succès électoral, ils agissent par la violence et par la force. Malheureusement, les autorités n'osent pas interdire. Il est question périodique de les interdire. Bon, l'argument, c'est que si on les interdit, ils vont passer dans la case des sinistrés et ils seront aussi dangereux, sinon plus. D'habitude, ils ne font pas des manifestations. Ces gens-là, ils ne sont pas capables de réunir tant de monde. Ils agissent plutôt par des actions quasi-terroristes. Enfin, ils ne posent pas des bombes, mais ils terrorisent un petit peu les populations.
Donc ce groupe a dû s'allier avec d'autres organisations pour organiser cette manifestation. Lesquelles ?
Ils se sont associés à d'autres groupes islamistes, mais plus modérés. C'est-à-dire qu'ils sont des gens qui sont pour la charia, qui sont assez hostiles à l'État indonésien tel qu'il est, mais qui ne sont pas partisans de la violence. Et vous avez notamment parmi eux, à côté donc du front des défenseurs de l'islam, vous avez le Majelis Ulama indonésien, c'est-à-dire le Conseil des Ulamas indonésiens. C'est censé être la plus haute institution de l'islam en Indonésie. En réalité, vous savez que l'islam n'a pas de structure organisationnelle comme le catholicisme. Et donc cette instance continue de prendre des fatwas généralement réactionnaires, pro-charia, pour la loi coranique, qui sont plus ou moins appliquées. Ça n'a pas force de loi, mais si vous voulez, ça exprime donc un secteur de l'opinion indonésienne qui est donc plutôt islamique. Islamisant, au sens islamiste du terme, c'est de l'islam politique. Alors ce qu'il faut simplement savoir pour voir un peu plus clair, c'est que dans les différentes élections libres qui ont lieu depuis plus de 15 ans en Indonésie, les partis islamistes, ils sont assez nombreux, au maximum ça a atteint un tiers des voix des électeurs indonésiens, et dans les dernières élections, c'est plutôt un quart qui sont des islamistes. Donc c'est à la fois une manifestation assez impressionnante qu'on a ce matin, en même temps il ne faut pas surestimer les choses, l'Indonésie c'est 250 millions de personnes.
Finalement la manifestation est-elle plutôt le fruit de ce phénomène d'intolérance que vous décrivez ou de l'approche du scrutin pour élire les gouverneurs qui arrive en 2017?
C'est les deux. Ça traduit quand même une certaine tension. Il y a eu, par exemple, il y a quelques semaines à Medan, dans la grande ville du nord de Sumatra, des émeutes anti-chinoises et anti-chrétiennes, mais qui ont abouti non pas à des églises brûlées, comme ça peut arriver, mais plutôt à des temples confucéens ou bouddhistes brûlés par des manifestants musulmans. Ça et là, dans le grand archipel, il y a des tensions interreligieuses. Donc cette manifestation les reflète, mais c'est aussi dans la perspective de ces élections pour les gouverneurs de province, et il s'agit de manifester contre le gouverneur de Jakarta, parce que non seulement il est chinois et chrétien, mais surtout aussi parce qu'il a eu le malheur dans une interview de citer le Coran. Ça, si vous voulez, c'est la petite étincelle qui a provoqué cette manifestation. Pourquoi cette manifestation est-elle capable de réunir autant de monde? C'est parce qu'il y a effectivement des tensions récurrentes en Indonésie entre les communautés religieuses. Une grande majorité de musulmans en Indonésie, 90% de la population est musulmane, mais vous avez quand même des minorités chrétiennes, protestantes et catholiques substantielles. 10% du pays, ça fait quand même entre 25 et 30 millions de personnes qui sont généralement très actifs et qui se débrouillent très bien dans la société indonésienne, ce qui parfois suscite des jalousies parmi les musulmans.